Seigneur, je te remets ce temps. On va se mettre à l'écoute de ta parole. Et je te remets tout particulièrement Guillaume, ton serviteur, entre tes mains. Que vraiment tu puisses nous parler au travers de lui, au travers de ta parole. Que nos cœurs, Seigneur, soient à ton écoute. Et que tu puisses vraiment parler à travers la bouche de ton serviteur. Amen.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, rebonjour. Je me réjouis de vous voir ce matin. Ça fait plusieurs semaines, en tout cas pour les habitués, que j'étais pas présent malheureusement. Donc je suis heureux de pouvoir partager le message, mais juste aussi de vous voir. Et justement, ces dernières semaines, si j'étais pas là, c'est parce que je vadrouillais un petit peu partout pour parler des jeunes. Et du coup, ça tombe bien parce que c'est le thème de ce matin, donc je suis dans la continuité. Et c'est un peu mon travail maintenant, c'est d'aller partout, parler soit à des jeunes, soit parler aux églises à propos des jeunes. Donc je vous propose de faire ça encore dans la continuité du culte. Mais la difficulté souvent qui se pose quand on veut aborder ce genre de thème, c'est une question de définition. Alors je ne sais pas si je peux, si Sam, je peux avoir la zapette. Merci, trop bien. Merci à Sam pour la technique. C'est la question de, c'est quoi en fait un jeune ? Là, tout à l'heure, on a parlé des 0-25 ans. C'est une définition qui, je pense, colle pas mal. On parle de, je ne sais pas si vous êtes familier avec les termes génération Z, génération Alpha, il y en a à qui ça parle un petit peu. C'est des catégories qu'on a aujourd'hui pour parler des jeunes au niveau sociologique. Parfait. Trop bien. Alors, est-ce que les jeunes, c'est seulement ceux qui ont entre 0 et 25 ans ? Est-ce que c'est que les enfants, les ados, le groupe de jeunes ? D'un côté, oui, et je vais pas mal rebondir là-dessus ce matin. Mais on pourrait peut-être dire aussi que les jeunes, ce sont par exemple les jeunes dans la foi. Les personnes qui viennent de découvrir Jésus, et puis au début, en général, il y a la passion, le zèle, le feu. Et oui, c'est aussi un peu ça, je vais en parler ce matin. Mais je vous propose une définition peut-être un petit peu plus large. Et on va peut-être un peu tous pouvoir se dire « Ah, je suis encore un peu jeune, en fait, au fond. » Et c'est sous forme d'un poème qui n'est pas un poème d'un grand auteur, je dois être très honnête avec vous. C'est un poème que j'ai coécrit avec ChatGPT. Il est quand même, je le trouve, assez juste. C'est quoi un jeune ? Un jeune, c'est quelqu'un plein de rêves, parfois blessé, brûlant de feu ou prêt à tout lâcher, petit à ses yeux, perdu, incapable, mais dans les plans de Dieu, inestimable. Il doute, il lutte, il veut des signes, mais peut suivre Dieu jusqu'au bout de la ligne. Parfois apathique, parfois en mission, il passe du silence à la révolution. Capable du pire comme du meilleur, sa force se cache dans son cœur. Quand Dieu l'appelle, tout peut changer, sa faiblesse devient autorité. La jeunesse, c'est ça, un terrain fragile, mais un potentiel immense, où Dieu écrit l'histoire quand le jeune avance. Vous vous y retrouvez, ouais ? Oh. Merci beaucoup, mais je passerai le message à mon co-auteur. Mais l'idée, c'était de souligner un peu que la jeunesse, on est un peu tous jeunes au fond, parce que la jeunesse, c'est un peu cette zone de paradoxe. Des fois, une grande passion, et puis des fois, beaucoup de fatigue. Des fois, des grands rêves et envie de tout changer, puis des fois, la peur qui nous paralyse. Des fois, une radicalité dans l'obéissance, et puis des fois, une radicalité dans la rébellion. On est tous un peu jeunes au fond. Et dans la Bible, j'ai trouvé un exemple d'un personnage qui me semblait un peu un archétype de ce que c'est être jeune. Et ce personnage, c'est Gédéon. Et en particulier, peut-être jeune dans notre génération. Et de façon plus générale, donc Gédéon, c'est un personnage qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible, qui raconte l'histoire d'un peuple, et c'est le peuple d'Israël. Et finalement, Gédéon et Israël, son peuple, sont finalement, il me semble, des types un peu, des modèles de ce que c'est être jeune. Et ce matin, j'aimerais me baser sur une des histoires qui est racontée dans la Bible à propos de Gédéon, et peut-être qu'il va nous aider à comprendre certains défis auxquels la jeunesse est confrontée, puis peut-être qu'on va tous aussi pouvoir s'y reconnaître. Alors, juste pour donner un peu de contexte à cette histoire, parce que c'est bien de quand même savoir de quoi on parle, on est du coup au Moyen-Orient, dans cette zone aujourd'hui qui est la Israël-Palestine, et on est à peu près entre 1200 et 1100 avant Jésus-Christ, d'après les estimations. Et on a donc ce peuple d'Israël qui a déjà vécu énormément de choses. L'histoire, je pourrais remonter encore plus loin, mais je vais la commencer au moment où tout le peuple était esclave en Égypte, dans l'Égypte des pharaons. Et la Bible nous raconte qu'en fait, ce peuple a été libéré miraculeusement par Dieu, par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelle Moïse. et Moïse va conduire le peuple dans le désert pendant plusieurs années. Ils vont tourner en rond, puis ils vont finalement rentrer dans le pays que Dieu avait promis à leurs ancêtres de leur donner. Et une fois qu'ils sont rentrés, ils se sont installés. Et puis, à ce moment-là, le peuple, c'est pas un modèle politique habituel. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de démocratie. Il y avait ce qu'on appelle des juges. C'était un peu des leaders, un peu spontanément, qui arrivaient, qui se levaient pour prendre la charge du pays, du peuple. Et tout ça, c'est raconté dans un des livres de la Bible, qui est le livre des juges. Et dans ce livre, il y a un cycle qui revient tout le temps. Il y a le peuple qui est censé adorer Dieu, le seul Dieu, l'unique, qui est révélé dans la Bible, qui tombe dans l'idolâtrie. Ils se mettent à adorer d'autres dieux, des idoles, des statuettes ou toutes sortes de choses. Et suite à ça, Dieu les prévient, si vous continuez, il va se passer quelque chose, et il y a une invasion, une épreuve qui intervient. À ce moment-là, le peuple se repent, crie à Dieu, demande de l'aide, et Dieu suscite un libérateur, un juge. Et en l'occurrence, Gédéon, c'est un de ces libérateurs, un de ces juges. Et à cette époque-là, on est donc à ce moment-là, au début de l'histoire, au moment de l'invasion. L'invasion, elle est creusée par ce qu'on appelle les Madianites. C'est un peuple, à l'époque, qui était nomade, ou des fois semi-nomade, voilà, d'après Wikipédia. Et ils avaient la particularité d'utiliser des chameaux pour faire la guerre. Et ça les rendait très redoutables. Et c'est là que part notre histoire en Juges, donc le livre des Juges, chapitre 6, versets 1 à 6. Je vous le lis. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza, et ne laissant Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Amen pour le moment. Quand j'ai lu ce passage, il y a une chose qui m'a interpellé, et là je ne vais pas tout de suite parler de la jeunesse, je voulais juste le souligner comme ça au passage. Ce qui m'a surpris, c'est ce petit bout de passage où il est dit « L'Éternel les livra entre les mains de Madian ». Et ça m'a surpris parce que quand je lis la Bible et surtout les épisodes juste avant, on voit au contraire que Dieu, c'est plutôt un Dieu libérateur. C'est celui qui libère les opprimés, qui prend la défense des faibles. Et le fait de dire que Dieu permet qu'il y ait un oppresseur qui arrive, moi je me suis dit « bizarre ». Ça m'a interpellé. Et quand on regarde un peu plus largement le message dans la Bible, le cycle s'est répété plusieurs fois. Et à chaque fois, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va envoyer ce qu'on appelle un prophète, un messager, quelqu'un qui parle de sa part. Et à chaque fois, on voit le peuple qui s'éloigne de Dieu et les prophètes qui sont là un peu pour dire « Attention, attention, si vous rejetez Dieu, si vous rejetez sa parole, il va y avoir des conséquences. » Et le cri des prophètes, je trouve qu'il se résume très bien dans un des prophètes qui disait « Revenez à moi, revenez à Dieu de tout votre cœur. » On voit le cœur de Dieu qui aime son peuple et qui l'appelle à revenir. Et juste après, on va voir qu'un des prophètes va arriver. Mais en tout cas, il y a ce schéma, le peuple s'éloigne de Dieu et une épreuve intervient. Et des fois, j'ai entendu, alors parfois dans des églises, qu'il y avait comme un peu un lien, un schéma, que si une épreuve nous intervient, c'est peut-être qu'on s'est éloigné de Dieu. Peut-être qu'il y a un péché qui est caché. Et je l'ai vu, je l'ai entendu, et j'ai vu que ça faisait mal. Et surtout, j'ai vu que ce n'était pas le message de la Bible. Bien que, à ce moment-là, il y avait effectivement des moments où le peuple s'éloignait, et donc une conséquence intervenait, on voit qu'en fait, même parmi les personnes pieuses, même parmi les personnes qui ont suivi, obéi à Dieu, elles ont eu leur lot de souffrances. Elles ont eu leur lot de galères. Et j'aimerais juste souligner ceci, au cas où quelqu'un aurait besoin de l'entendre, c'est que toutes nos épreuves ne sont pas le signe d'un éloignement de Dieu. Ça, ce n'est pas le message biblique. Par contre, le message biblique, c'est qu'elles sont toujours un appel à un rapprochement plus profond encore avec notre Seigneur. Un appel à trouver en Dieu notre réconfort, notre sécurité. En l'occurrence, pour Israël, les oppresseurs, la conséquence, c'était les Madianites. Et donc moi, j'ai un peu cette mission aujourd'hui de parler de la part des jeunes et d'identifier quels sont les défis pour la jeunesse aujourd'hui. et en particulier qui sont les oppresseurs des jeunes. C'est quoi les choses qui aujourd'hui oppressent la jeunesse? Et mon objectif, je vais peut-être dire des choses qui vont nous faire froid dans le dos. Et c'est pas de nous faire peur, c'est plus de susciter de la compassion et dire cette génération a besoin d'aide. Elle a besoin qu'on soit présente pour elle et que ça nous pousse à l'action. Les oppresseurs de la jeunesse aujourd'hui. Le premier que je note, et peut-être les jeunes pourront confirmer ou pas ce que je dis, ce sont les troubles de santé mentale. En particulier l'anxiété et la dépression, mais bien d'autres encore. Je vous partage juste quelques chiffres. En 2021, 40%, donc quasiment un jeune sur deux parmi les 18-24 ans, souffre de troubles de l'anxiété généralisée. Je ne suis pas médecin, mais ce n'est pas cool, il me semble. Il y a des nouveaux mots qui émergent, comme l'éco-anxiété. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler d'éco-anxiété. Non, pas forcément, c'est bien, je vais pouvoir en parler. Si, là-bas, je vois. C'est le fait que des jeunes qui, à force de voir toutes les mauvaises nouvelles concernant l'écologie, le monde qui se détruit, et tout le fait que, en fait, on a des objectifs pour sauver la planète et on n'y arrive jamais, il y a quand même une anxiété à ce sujet-là, une anxiété quand on pense à l'avenir de notre planète, qui fait que on panique, et ça, c'est vraiment source d'anxiété pour beaucoup de jeunes. Plus d'un jeune sur cinq connaît des symptômes dépressifs. Et c'est peut-être celle qui fait le plus mal. Au cours de leur vie, il y a quelques années, une étude a été faite. Près de 13% des lycéens interrogés déclarent avoir fait une tentative de suicide, avec une proportion deux fois plus importante chez les filles que chez les garçons. Ça fait partie aujourd'hui dans un monde qui, à la fois, on dit qu'il y a plein de crises, et en même temps, avec les réseaux sociaux, on a accès à toutes les informations, et ça suscite un climat d'anxiété générale. Je pourrais développer un peu plus, mais ce sera un peu plus long. Deuxième oppresseur, c'est la solitude. Ce qui pourrait sembler paradoxal, parce que pourtant on se dit, on a les téléphones, on est connecté un peu partout dans le monde. Et d'après un rapport qui est sorti il y a quelques années, sur la moyenne nationale, on a 44% des Français qui se sentent seuls régulièrement, ce qui est déjà énorme, quasi une personne sur deux. Les jeunes, c'est 62% qui régulièrement se sentent seuls et incompris. J'ai mis les dérives des réseaux sociaux, je ne veux pas diaboliser les réseaux sociaux, ce n'est pas mon propos, mais dire que oui, il y a des risques, le cyberharcèlement, les phénomènes de comparaison, de dépendance. Un des autres oppresseurs, c'est la pornographie. J'hésite à vous partager les chiffres, mais je vais peut-être le faire quand même. 50% des enfants de primaire ont déjà regardé des films pornographiques. 50% des garçons en 5e chaque mois. 100% des lycéens y sont exposés. Et en moyenne, la première vidéo visionnée est à 12 ans. Voilà. Ça, ce sont les oppresseurs pour la jeunesse. Et un dernier que j'ai noté, je pourrais attendre la liste, crise de l'identité. On ne sait plus où trouver notre identité, qui je suis. Avant, il y avait des repères, j'appartiens à telle nation, j'appartiens à telle religion, j'appartiens à telle famille. Aujourd'hui, c'est trois choses qui sont un peu chamboulées. Je pourrais faire la liste plus longuement. Moi, la question que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on réagit? Et j'ai bien aimé ce que le texte nous pousse à faire. Oups. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Personnellement, moi je lis ça, je me dis, mais je pourrais me sentir juste en mode, bon, c'est foutu. Et j'entends des jeunes souvent me dire quand je voyage, c'est foutu, ça va pas le faire. Et en même temps, moi je crois en la puissance de la prière. Je crois que quand on crie à Dieu, il se passe quelque chose. Quand dans tout notre cœur, on met toute notre tripe pour lui partager notre fardeau, il est capable d'intervenir et c'est ce qui va se passer dans notre histoire. Et particulièrement, je crois, et c'est ce que je partage partout où je vais, c'est que Jésus, c'est la réponse à toutes ces problématiques. C'est la paix dans l'anxiété. C'est l'ami fidèle dans la solitude. C'est le libérateur dans nos addictions. C'est notre créateur qui nous révèle notre identité, et je pourrais continuer et continuer. Et je voudrais vous challenger peut-être cette semaine, et pas que cette semaine, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, à noter le prénom ou des prénoms, mais peut-être déjà un pour commencer, d'un jeune pour qui on va prier. Pour qui on va crier à Dieu, peut-être qu'il est concerné par une de ces problématiques, peut-être par autre chose, mais pour dire, Seigneur, je vais crier à toi pour ce jeûne. Et tant qu'on n'a pas vu la libération, on va continuer de le faire. Voilà pour un peu la première partie du texte. Je vous propose de passer à un deuxième segment du texte. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un messager, un prophète. Donc un prophète, c'est un messager. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés de devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens. Donc les Amoréens, c'était un peuple qui habitait à ce moment-là sur cette terre, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Le prophète fait donc référence à cet épisode de la libération d'Égypte que j'ai déjà mentionné. Peut-être certains, vous avez la référence du prince d'Égypte, le dessin animé qui a cartonné il y a quelques années, qui n'est pas tout à fait fidèle au texte biblique, mais qui raconte quand même l'histoire de comment Dieu a libéré son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Et c'était spectaculaire. 10 plaies, plus impressionnantes les unes que les autres, une mer qui s'ouvre en deux pour qu'un peuple entier puisse traverser. C'était une expérience forte pour des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Et Dieu, il avait confié une mission à ceux qui avaient vu ça. Il leur avait parlé. Il avait dit, transmettez aux générations suivantes. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces instructions, ces prescriptions et ces règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données, tu lui répondras, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, mais l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Il fait référence à des fêtes. Tous les ans, il y avait des fêtes pour se rappeler que le peuple avait été libéré d'Égypte et que Dieu est notre libérateur. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que toujours le croyant, peuple de Dieu, on a cette mission de transmission, de partager à la génération suivante ce que Dieu a fait dans l'histoire, mais peut-être particulièrement aussi dans nos vies. Et Gédéon, il va en parler après. Et j'aimerais aussi nous encourager à ne pas négliger cette responsabilité qu'on a. De raconter, à la fois comme on le fait dimanche après dimanche, à l'école du dimanche, aux collégiens, voilà ce que Dieu a fait dans la Bible, mais peut-être raconter aussi, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Transmettre. Et c'est là que je lance mon deuxième challenge. Je m'adressais peut-être aux moins jeunes parmi nous, mais qui sont toujours jeunes. Je vous encourage vraiment à peut-être être proactif, à partager votre histoire. Partager ce que vous avez vécu avec Dieu. Je le sais parce que certains, je vous connais bien. Il y a des trésors dans vos vies, dans ce que Dieu a fait dans votre parcours. Mais ça, c'est ce que je dis aux plus anciens, mais peut-être je vais m'adresser surtout aux jeunes. Allez demander, allez poser des questions, allez raconter, mais comment vous avez rencontré Jésus? Comment Dieu a été fidèle jusque-là dans vos vies? Et des fois, on essaie de mettre des choses en place pour vivre l'intergénérationnel à l'église, et je trouve ça excellent. Mais je me dis des fois, la simplicité aussi, d'inviter quelqu'un à manger, prendre du temps ensemble, et juste partager l'expérience et la richesse de la fidélité de Dieu pour toutes les générations. On continue notre histoire. Voilà, c'est vraiment à chaque fois une petite application. Je suis pas allé en profondeur dans le texte pour cette fois. Puis l'ange de l'Éternel. Petit point de définition. L'ange de l'Éternel, c'est un ange, un messager de la part de Dieu qui a une place particulière parce qu'il représente vraiment particulièrement Dieu. Et quand l'ange de l'Éternel débarque, c'est que vraiment Dieu a un message particulier à donner. L'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartient à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. On a un résistant. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Et pour précision, tous ces noms, c'est des noms de tribus et de familles qui constituent le peuple. On vient de parler de transmission. Et je note que Gédéon, il connaît les histoires. Visiblement, il les a entendues. Oui, Dieu a libéré notre peuple, etc. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Il pose la question de, ok, je connais les histoires, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Passer de juste j'entends des histoires à une expérience. Où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Je vais vous donner peut-être un exemple pour illustrer comment moi je vis ça dans un autre domaine. Certains, vous étiez peut-être présents un certain jour de juillet 1998. Je ne sais pas qui a vu ce match, la finale 98 de la Coupe du Monde. Voilà, bon, désolé, là on voit les générations du coup. Personnellement, moi je suis né Je suis né en 2000. Et depuis tout petit, on me dit, mais t'as pas vu 98. T'étais pas là en 98. T'as rien connu de la vie si t'étais pas là en 98. Et il y avait un peu ce truc de, t'as raté le moment où on allait vivre quelque chose ensemble. T'as pas, c'est trop tard. Et j'en discutais avec un ami récemment, on disait, mais du coup, on a grandi avec ce truc, mais nous aussi, on veut être champion du monde. Nous aussi, on veut les Champs-Élysées, on veut la fête, on veut pouvoir crier qu'on est champion du monde. Alors, on a eu de la chance, il y a eu 2018, on a battu les Croates, on est champion du monde à nouveau, 20 ans plus tard. J'aurais pu faire avec Marseille et Paris hier soir, mais je me suis dit, c'est un peu trop frais. Mais juste te dire, il y avait ce truc de, on me raconte des histoires, mais si je ne l'ai pas moi vécu, il va me manquer quelque chose. Et je crois qu'on a, parmi les jeunes, en tout cas moi quand je parle avec eux, ce truc de, moi je veux vivre quelque chose avec Dieu. Je veux pas que ce soit juste des histoires qu'on me raconte, une culture. Je veux que ce soit une expérience concrète. Et Gédéon, il est un peu là-dedans. Où sont les exploits qu'on me raconte? Il y a ça, il y a ce désir d'expérience, et en même temps, un peu comme Gédéon, ce syndrome de l'imposteur, ce manque de confiance. Gédéon, il dit, moi je veux vivre des choses, par contre, mon clan c'est le plus faible de Manassé, c'est le plus faible de ma tribu, et je suis moi-même le plus petit dans ma famille. Et ça, c'est quelque chose aussi que moi j'observe, et c'est quelque chose qu'on observe aussi au niveau des statistiques, j'allais dire. C'est des jeunes qui n'ont pas confiance en eux, et qui se dévalorisent, et qui ne se rendent pas compte de leur potentiel, et qui disent, mais en fait, oui, j'aimerais qu'on sauve la planète, j'aimerais qu'on ait plus de justice sociale, j'aimerais qu'on vive peut-être un réveil spirituel dans notre pays. Par contre, moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne vais pas y arriver. Pourtant, ce que Dieu dit à Gédéon, c'est ça. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin qu'on soit un peu ce relais-là, de parler de la part de Dieu et dire « Dieu, il est avec toi et il peut faire quelque chose avec toi. » Il y a un gars, je ne sais pas si quelqu'un le reconnaît, je ne pense pas, parce qu'il n'est pas très connu. C'est un sociologue qui s'appelle Vincent Cespedes. Il a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Oser la jeunesse ». Et il parle dans ce livre de toutes les qualités, en particulier là, des jeunes qui sont nés, la génération Z, génération Alpha, qui sont nés donc depuis l'année 2000. C'est pas pour voilà, mais pour dire que ils ont toutes sortes de qualités spécifiques. Ils regorgent de talents, ils sont créatifs, ils ont une capacité à s'adapter, ils ont une capacité à rêver grand. Et il parle d'eux comme de la génération perle ou diamant, pour dire ils sont tellement précieux, tellement capables, mais en même temps tellement fragiles. Ça, c'est ce que dit Vincent Cespedes. La Bible en parle aussi. Un Jean, donc là on fait quelques sauts dans le temps, un disciple de Jésus qui écrit et qui dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » C'est ce qui est possible pour des jeunes qui sont forts, la parole de Dieu qui demeure en eux et qui ont vaincu même le malin. Mais il y a besoin souvent de coachs. Alors attention, la prochaine image va peut-être vous choquer. C'est moi et ma grand-mère. Et j'aimerais vous parler quelques secondes de ma grand-mère. Parce que pour le coup, elle a été ce coach pour moi à un moment dans ma vie. Et elle était un peu comme ceux qui me parlaient de la 98. Elle ne me parlait pas de football, elle me parlait des grands missionnaires. Elle me parlait des John Wesley. Alors désolé pour ceux qui n'ont peut-être pas les noms, qui ne connaissent pas forcément. Charles Finney, Billy Graham, Evan Roberts. Des gens qui, dans leur génération, ont changé le monde grâce au fait de proclamer la parole de Dieu. Et moi, d'un côté, j'écoutais ça, je me suis dit, oula. Et elle me disait, mais voilà ces hommes-là, ce qu'ils ont fait. Mais après, ce qu'elle me disait, elle ne me disait pas juste, c'est fini, t'as raté, 98, c'est fini. Elle me disait, mais ta génération, vous pouvez vivre la même chose. Vous pouvez aussi faire la différence. Vous pouvez aussi, pas juste être ceux qui regardent les rediffusions de matchs ou les rediffusions de prédications, mais ceux qui vont amener le monde à changer par l'évangile. Et je me dis que peut-être Gédéon, ce qui lui a manqué, c'est ça. C'est une grand-mère, un animateur groupe de jeunes, une personne dans l'église qui est venue lui dire « Tu peux le faire, mon gars. » Alors du coup, c'est Dieu qui est venu directement. Ça marche aussi. Mais je nous encourage peut-être à être ces relais qui parlent pour les jeunes, qui les encouragent. Troisième challenge alors que je vous donne. Et là, je vais m'adresser jeunes entre jeunes aussi, on peut le faire. Hein. Mais quel jeune on va aller encourager cette semaine? Lui dire, moi je vois ça en toi. Je te vois, t'es souriant, t'es rayonnant, et tu connectes facilement avec les gens peut-être. Je vois que t'as un don dans peut-être la louange ou dans autre chose. ou juste dire à un jeune, bah, t'es aimé, t'as de la valeur. Et j'en profite, je fais un petit instant promo. Dans quelques semaines, il y aura une formation qui va être proposée par un collectif de jeunes. C'est une formation au coaching chrétien et sur comment on peut accompagner les jeunes particulièrement avec une posture de coach. C'est pas le coach ni de football qui crie sur le côté du terrain, ni un truc de développement personnel un peu bidon. C'est vraiment comment on peut se positionner à côté d'un jeune et l'aider à se poser les bonnes questions. Et c'est vraiment fait par des gens qui ont à cœur la jeunesse, qui sont ancrés dans leur foi. Donc si jamais ça vous intéresse, je crois qu'il y a là, dans les annonces, on en parle, je ne sais plus. Il n'y a pas de visuel. Ce sera le dernier week-end de juin en tout cas. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Effectivement, il faudra que je transmette les infos. On fait un petit bond un peu plus loin dans le texte et ce sera la dernière, juste la dernière remarque. L'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. » On est sur les fameuses idoles dont on parlait. « Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Des termes techniques pour dire « on fait un sacrifice, une offrande pour Dieu. » Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville. Il accomplit de nuit et non de jour. Dieu confie une mission au jeune Gédéon. Démolit l'autel de l'idole. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire. Il va même changer de nom à ce moment-là. On va l'appeler Yérou-Baal. Que Baal se défende. C'est la terreur des idoles, celui qui fait tomber les statues. Et je trouve que ça illustre bien un dernier fait que j'aimerais noter. C'est que les jeunes, et notamment les jeunes qui viennent de rencontrer Jésus souvent, ils ont cette capacité et cette force de revenir à l'essentiel. De juste dire, c'est Jésus, point, rien d'autre. Et des fois, ça nous secoue un peu, et des fois, on a besoin de les entourer, de les canaliser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, de les accompagner. Mais ils ont ce moment où, en tout cas moi, du coup, j'ai le privilège de côtoyer des jeunes convertis régulièrement, des collégiens qui viennent de rencontrer Jésus, et souvent ils me mettent des claques, en fait. Et ils me remettent en question, notamment sur peut-être les choses que je peux avoir comme idole dans ma propre vie. Et les idoles, on a peut-être l'image des statuettes devant qui on se prosterne, etc. Des fois, c'est un peu plus insidieux que ça. Il y a un livre qui a été écrit par un pasteur qui s'appelle Tim Keller, qui s'appelle « Les idoles du cœur ». Et je vais juste vous lire ce qu'il dit. Il y a 2000 ans, les nations les plus avancées adoraient des idoles faites de bois et de pierre. Aujourd'hui, nous rions de leurs ignorances. Mais sommes-nous plus avancés? Pour la plupart d'entre nous, le mot idole évoque une statue au sens propre, ou alors la prochaine gagnante de la Star Academy. De nombreux peuples pratiquent encore aujourd'hui le culte des idoles un peu partout dans le monde. Mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, est une pratique universelle. Le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses, comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels ou même la famille, et à les transformer en biens suprêmes. Nos cœurs élèvent au rang de Dieu, les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donneront importance, sécurité, protection et épanouissement si nous parvenons à les atteindre. Le cœur humain est une fabrique d'idoles. Ça pique. Et il y a une petite liste qui est faite dans le livre. Peut-être il y a déjà une petite liste ici, mais peut-être c'est le succès, notre idole. Vouloir réussir à tout prix dans la vie. Une relation, plusieurs relations. L'argent, les possessions. L'apparence, le nationalisme, les idéologies politiques diverses, l'idéalisation de la famille ou des enfants, les bonnes œuvres, penser qu'on est une bonne personne, une bonne religion sans le fond qui est Jésus. Celle-là, moi, elle me pique particulièrement, le ministère ou le service à l'Église. Toutes ces choses qui, en tout cas, moi, je me confesse, j'en ai plusieurs ici, oui, mon cœur fabrique ces idoles-là. Et ça me fait du bien de discuter avec les jeunes, qui, eux, souvent, au début, ils sont radicaux. Ils tranchent. Et j'aimerais peut-être nous challenger. Je parlais tout à l'heure peut-être de personnes plus avancées dans la foi qui partagent aux jeunes ce qu'ils ont vécu. Mais peut-être aussi que ça puisse aller dans les deux sens. Et peut-être laisser les jeunes parfois nous bousculer. Prendre le temps de les écouter. Écouter leurs idées, leurs avis. On peut ne pas être d'accord et discuter, mais je vous encourage peut-être aussi à prendre le temps avec un jeune, si vous avez le temps de prendre un café ou un repas avec un jeune, pas juste partager votre histoire, mais prendre le temps de l'écouter. Et peut-être comme Gédéon, ça fera mal, mais il fera peut-être tomber quelques idoles dans nos cœurs et dans nos vies. Alors ce matin, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de challenges. Mais je vous encourage peut-être juste à prendre quelques secondes et réfléchir. Est-ce qu'il y a un jeune en particulier qui vous tient à cœur pour qui vous voulez prier cette semaine? Est-ce qu'il y a le même jeune ou un autre jeune pour qui vous voulez à qui vous voulez partager votre histoire avec Dieu? Et les jeunes, pensez à une personne peut-être à qui vous voulez poser des questions. Peut-être pensez à un jeune qu'on veut encourager, à qui on veut donner une parole, peut-être un SMS là en sortie du culte. Voilà, je voulais te partager ça, ce que je vois en toi. Et puis peut-être aussi un jeune à écouter, qui va nous challenger dans notre foi. Voilà, je vais nous inviter simplement à la prière pour conclure. Père, merci pour ton Église. Merci parce que tu es celui qui nous unit, Jésus. Merci parce que tu as voulu que jeunes et vieux, enfants, parents, toute génération confondue soit dans ton royaume. Et tu permets qu'on s'enrichisse mutuellement. Et je te prie, je te remercie pour l'Église de Vendeuve qui, je crois, le vit déjà de bien des manières. Et c'est un tel sujet de reconnaissance pour moi de faire partie de cette Église qui vit cela. Mais je te prie qu'on puisse peut-être passer encore d'autres étapes. Je te prie que chacun d'entre nous, individuellement, tu nous mettes un fardeau particulier, peut-être pour un jeune de notre entourage, pour des jeunes peut-être qui sont dans l'Église, des jeunes qui sont en dehors de l'Église, qui ne te connaissent pas encore. Merci parce que je crois que tu t'appelles cette génération. Tu veux vraiment qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Merci pour tout ce qu'on a vécu ce matin. Je te prie que ce ne soit pas juste un événement, mais que ce soit quelque chose comme un mouvement qui continue dans nos semaines, là, dans la semaine à venir, que vraiment on puisse vivre ces moments forts de communion entre générations, où on partage, on transmet, on se laisse challenger aussi, et que ouais, tu puisses conduire ton peuple là où tu veux l'amener. En ton nom, j'ai prié, Jésus. Amen.